Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir, rendez-vous mensuel dans Variation. Guy Le Polarski au micro, vous écoutez Radio PFM et vous avez rendez-vous avec les littératures policières. Variation en noir, c'est une émission réalisée en collaboration avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier avec un membre éminent de cette association, Hervé Delouche. Hervé qui est avec nous au téléphone depuis la capitale. Hervé, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Voilà, mélancolie révolutionnaire au sommaire ce mois-ci dans Variation en noir. Plus précisément, nous allons parler de Hervé Lecor, de son dernier roman en date, qui, après Nous vivrez en rivage noir, et d'un long et riche entretien publié aux éditions Playlist Society, un livre signé Yvan Robin et justement titré « Hervé Lecor, mélancolie révolutionnaire ». Une formule, comme nous le verrons, qui est chère à cet auteur incontournable du roman noir français. Et puis, il devrait nous rester quelques minutes en fin d'émission pour évoquer brièvement le dernier numéro de la revue 813. Mais avant cela, Hervé, tu souhaitais évoquer un écrivain et éditeur récemment disparu. Alors, nous ne sommes pas dans le noir, quoique, mais par contre, nous sommes bien dans la mélancolie révolutionnaire, Hervé.
De Éric Cazan, qui nous a quittés il y a quelques jours, qui a eu tout un parcours, mais qui est connu pour avoir fondé la maison et dirigé la maison d'édition La Fabrique. Je crois que ça a dû être fondé en 1998. Bon, Éric Cazan, c'est un grand éditeur. Pour moi, c'est un héritier de la génération des François Maspero, par exemple. C'est un grand éditeur, c'est un homme de conviction, c'était aussi un homme d'une très grande humanité. Et puis, il y a par ailleurs un rapport direct avec notre émission et nos préoccupations littéraires, puisque Éric Cazan, c'était un piéton de Paris, comme on dit, au sens y compris littéraire des choses. Il a écrit des livres dans ce sens, dont L'invention de Paris au seuil, je crois, mais il a aussi écrit un Balzac Paris aux éditions de La Fabrique. Il a publié Louis Chevalier, Montmartre du plaisir et du crime, et peu de temps après la création de sa maison, en 2002, je crois, il a publié un petit livre de deux Allemands, Elfried Müller et Alexander Ruhoff, Le polar français, crime et histoire, qui était déjà un livre qui mettait l'accent sur la présence de l'histoire dans le polar, sur le polar comme théorie critique, et on est totalement dans notre sujet, puisque voilà comment le livre, la présentation de ce livre se terminait ainsi. L'histoire qu'il raconte est celle des vaincus, mais avec un horizon ouvert où se mêlent espérance et mélancolie. Donc c'est un livre qui a quand même maintenant plus de 20 ans et qui était d'une pertinence très très grande. Voilà, donc oui, c'est une manière de saluer doublement Éric Cazan.
Voilà une figure singulière hein, de la gauche et du monde des lettres, un résistant de l'édition, écrit Le Monde, bon, il est mort à 87 ans, qui défendait dans les livres qu'il signait, ceux qu'il éditait, les causes auxquelles il était attaché de longue date, le communisme, la révolution, les barricades d'hier et d'aujourd'hui, et puis tu l'as dit, Paris, le vieux Paris, Balzac, etc. J'ai lu son histoire de la Révolution française, hein, toujours à la Fabrique, en 2012. Et vraiment, c'est un regard très intéressant sur cette période de l'histoire.
Ce qui est bien aussi, c'est une belle chose. Bon, cet éditeur qui a édité aussi bien Jacques Rancière que Norman Finkelstein et que bien d'autres, c'est aussi que il était très malade ces dernières années. Il a passé les rênes à deux jeunes complices qui continuaient. Enfin, évidemment, Eric avait toujours un œil très avisé sur ce qui paraissait, mais qui continue la fabrique. Et voilà, c'est aussi, c'est pas étonnant que ce passeur ait pensé aussi à cette transmission.
Oui, et donc, Hervé, c'est important d'évoquer, hein, et de rendre hommage à Eric Hazan. Et oui, et tu, hein, quand tu m'as parlé de ce bouquin publié à la Fabrique, le polar français, Crime et histoire, avec une préface de Frédéric Fajardi, livre de Elfriede Müller, Alexandre Ruoff, j'ai replongé un petit peu dans mes archives. Effectivement, c'est un livre que à l'époque j'avais chroniqué dans Noir c'est Noir ici sur Radio PFM, et c'est vrai que en fin de compte c'est un livre audacieux, mais c'est à l'image de cet éditeur, puisque c'est un livre qui établit un lien entre l'école philosophique de Francfort, dont Théodore Arnault est l'un des maîtres à penser, donc un lien entre cette école et le polar français, donc deux auteurs qui rapprochent d'entrée de jeu les Denax, Fajardi et autres Villars. Donc aux théoriciens Adorno, Benjamin ou Marcuse, et ils écrivent le polar, et avec lui ses auteurs et ses lecteurs évoluent sur une ligne de crête séparant l'utopie de la catastrophe, d'un côté l'espoir d'une société meilleure et de l'autre le désespoir suscité par la barbarie du siècle dernier. Et donc vraiment une thèse
en raccord avec ce dont on va parler après.
En plus, voilà, hein, je voulais marquer un petit peu marqué cette particularité, parce que ce livre, le polar français, fait référence à de nombreux auteurs. Alors il est écrit à la fin des années 90, hein, de nombreux auteurs du polar français. Alors il n'évoque pas Hervé Le Cor, mais il aurait tout à fait pu l'évoquer. Hein,
c'est Hervé. Exactement ce que je pensais, parce que Hervé Le Cor, pour des raisons de chronologie, n'avait pas encore il avait publié des série noire, mais qui n'était pas du niveau de ce qu'il va publier à partir de L'homme aux lettres de saphir dans chez Rivage. Mais sinon, oui, évidemment que oui, je pense que Hervé Le Cor aurait eu une bonne place dans ce livre. Il faut aussi noter que c'était remarquable qu'au début des années 2000, il y ait un livre de cet ordre. C'est pour ça que c'est bien de rappeler son existence, parce que c'est une autant dans les années 80, début 90 peut-être, il pouvait y avoir des textes un peu qui, à la suite de Manchette, qui fassent un peu cette analyse et qui osent la faire, autant après c'était retombé, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus en gros le polar était une marchandise éventuellement chroniquée, critiquée, mais pas avec des projections analytiques dessus, et donc c'était tout le mérite de Müller et Ruoff de faire ce travail, oui.
Donc Hervé, justement on en arrive à Hervé Le Cor, et son dernier roman en date aux éditions Rivage, Qui après nous vivrait. Alors on peut considérer que c'est un peu un ovni dans l'œuvre de Hervé Le Cor, ce dernier roman, puisque cet auteur nous avait plutôt entraîné du côté du passé quand il ne s'intéressait pas au présent, et le voilà donc qui nous emmène dans le futur, dans un siècle, en fin de compte, en 2121. Alors, roman de science-fiction, d'anticipation, dystopie, dit-on aujourd'hui, mais aussi roman noir, nous y reviendrons. Alors, les qui du titre sont les survivantes et les survivants d'une grande panne d'énergie survenue au milieu de notre siècle, le 21e siècle, et très subtilement, Hervé Le Cor s'attache au destin de trois générations de femmes, Rebecca, sa fille Alice, et puis Nour, la petite fille de Rebecca, qui va devenir aussi, on les suit hein, sur plusieurs années, qui va devenir à son tour la mère de Clara, et ces deux dernières cheminent dans un monde apocalyptique. on peut le dire, ce roman aussi aurait aussi pu être intitulé « Comment après nous vivrait ?» Et ça ne donne pas envie, Hervé.
Ben non, ça ne, évidemment, ça ne donne pas envie. Je crois qu'après nous vivrait, c'est la suite d'un... tiré d'un poème de François Villon qui s'appelle La balade des pendules, et ça commence par frères humains qui après nous vivraient, et je pense que le terme frère, on va y revenir, frères et sœurs, hein, est très important aussi dans cette noirceur. Il y a de la fraternité et de la solidarité, ça n'est peut-être même que ce qui reste, mais effectivement ça ne donne pas envie. Parce que on est comme tu l'as dit, il y a une construction très très subtile qui n'est pas d'ailleurs balisée par des dates et des choses comme ça. Par contre, le temps du récit peut changer, mais il y a ces trois générations de duo mère-fille, Rebecca et Alice, c'est l'effondrement, Alice et Nour, c'est le glissement vers la dystopie, on peut dire ça comme ça, et Nour et Clara, c'est le monde post-apocalyptique. Là, il y a l'apparition d'un duo père-fils aussi. Et la France, en tout cas, c'est une sorte de no man's land particulièrement hostile. C'est comment, en gros, c'est comme tu dis, c'est comment survivre au milieu du chaos, et est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose ?
Donc, Et effectivement, donc la grande panne, et puis le début d'une lente agonie. En fin de compte, la fin du monde s'éternise pour Hervé Lecor, une fuite permanente, hein, de ces personnages, tout en comprenant bien qu'il ne s'agit pas de fuir nos responsabilités, puisque l'irrémédiable a eu lieu. Alors, on rencontre dans ce roman vraiment de tout. Des bons, des illuminés, et puis des barbares, on peut le dire, hein. Il y a des scènes à la Mad Max, même si l'énergie manque et il y a vraiment de moins en moins de véhicules qui peuvent se déplacer, mais c'est terrible. Et parmi cet état d'esprit survivaliste, donc voilà le parcours de ces trois générations de femmes. Alors, encore une fois, de très très beaux portraits de femmes et des personnages féminins très forts, et ça c'est récurrent dans l'œuvre de Hervé Lecor.
Oui, il y a quand même, on l'avait déjà vu dans ses livres, que ce soit ces livres j'allais dire, qui sont tous des polars historiques en costume, mais ces romans noirs historiques, ces fresques très sombres que sont L'homolèbe de saphir et puis à l'ombre du brasier, ou alors ces romans noirs très contemporains dont on a parlé sur ces ondes, hein, notamment je crois que le dernier c'était Traverser la nuit, mais il y avait eu Les cœurs déchiquetés, voilà, il y a toujours des personnages de femmes qui apportent une certaine lumière, ça c'est sûr, mais aussi qui sont porteurs de dignité, de résistance et donc d'espérance, qui se tiennent debout, disons. Et ça, c'est une constante, et je pense que c'est une des grandes forces et une des grandes originalités du romancier Hervé Lecor aujourd'hui, d'avoir cette capacité de camper ainsi des femmes avec beaucoup de respect et de talent.
Oui, et puis quand même des questionnements, et c'est vrai que quand on est dans cette histoire, on se pose la question, mais pourquoi faire des enfants hein, dans ce monde, puisque les trois personnages féminins font un enfant. Alors faire un enfant aujourd'hui ou même hier, quelle folie, écrit l'auteur, autant accoucher au bord d'une falaise et jeter sans tarder le nourrisson dans le vide. C'est ce qu'il se disait avec Martin. Donc Martin, c'est le compagnon de Rebecca. À quoi bon faire naître un bébé dans ce monde-ci ? Leurs amis pensaient la même chose. Nos futurs, nos kids, répétait-il, à bleur et résigné. Mais ils avaient fêté tous la naissance d'Alice pendant 2 jours, ivres d'alcool et de joie, voulant y voir une promesse, une ouverture vers le pays des merveilles. Et si tout est vraiment très très sombre dans ce roman, il y a quand même une petite lueur d'espoir, Hervé.
Ah ben oui, ben oui, il y a de toute façon des lueurs d'espoir. Il le dit à un moment, la lueur, le peu de lumière qu'il y a, c'est la dignité de ces êtres humains et singulièrement de ces femmes, ce que je disais, qui se tiennent debout, qui essaient de transmettre des valeurs d'humanisme, des valeurs de respect, de dignité, des valeurs de combat. Comme il le dit, Hervé Lecor, c'est comme un espoir secret, comme un moteur secret qui nous fait tenir debout et mettre un pas devant l'autre. Voilà, mettre un pas devant l'autre.
Oui, avec aussi, on croise des communautés qui tentent de recréer des groupes sociaux sur des bases assez utopistes, très humanisme, autogestionnaire, etc. Et alors, c'est toujours très, 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 très compliqué, hein, puisque
c'est très menacé, car les risques d'oppression sont multiples, ils sont partout, en fait. Voilà.
Et bon, moi, la question, c'est vrai, quand on lit ce livre, on peut se demander comment survivre à la lecture de ce livre, Hervé. Ah ben moi, je me dis que pour survivre à cette lecture, il faut aller jusqu'au bout, hein, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une petite lueur d'espoir, on n'en dira pas plus.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est très délibérément, parce que comme tu le disais au début, ça peut surprendre, puisqu'Hervé Lecor, on l'a dit, avait publié des livres tous absolument remarquables, mais qui oscillaient entre l'histoire ou autour de 1870, 1871, ou bien vers 1950, je pensais à après la guerre à Bordeaux, c'est-à-dire au lendemain de l'occupation. Et de la collaboration qui à Bordeaux fut quand même très active et au moment des prémices de ce qui allait être la guerre d'Algérie, ou alors avec des livres extrêmement contemporains, Prendre les loups pour des chiens, Traverser la nuit, mais après Traverser la nuit, Hervé Lecor, je crois qu'il le dit d'ailleurs dans le livre dont on va parler, qui lui est consacré chez Playlist Society, il dit « Je n'écrirai plus jamais de polar comme Traverser la nuit », c'est le précédent, « Je suis allé au bout de la noirceur radicale telle que je me sens capable de la délivrer ». D'où ce roman qui, après nous, vivrait profondément sombre et dystopique et avec quand même de la lueur qui, je crois, a été pensé, mûrement réfléchi pendant le confinement et élaboré ensuite.
Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. To travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
Écoutez Radio PFM, Variation en noir, rendez-vous avec les littératures policières et le roman noir. Léonard Cohen, bien sûr, Suzanne, vous avez reconnu. Alors, Hervé, Suzanne, c'est un des personnages que croisent dans leur déambulation Nour et sa fille Croix, et sans doute un des personnages les plus attachants du roman. Une vieille dame avec son fils handicapé qui vit dans une clairière, dans un bois, dans une cabane. Et Nour, qui croise cette femme, lui demande comment vous appelez. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle hochait la tête lentement, les yeux mi-clos, comme si elle cherchait à se rappeler quelque chose. Disons Suzanne. Mais c'est à cause d'une très vieille chanson, explique la vieille dame, que me faisait écouter mon grand-père. Comment c'était déjà, ah oui. Et donc elle commence à fredonner d'une voix juste et claire cette chanson. Donc Suzanne. C'est si vieux. Explique-t-elle, 1967, je me demande parfois si cette année a vraiment existé, s'il y a eu un passé avant qu'on meure tous. Au début, on avait encore ce lien avec les années passées, les vieux en parlaient, quelque chose de vivant se transmettait encore, on voyait des images, des films, des gens avaient même rêvé en ce temps-là d'un monde meilleur, d'un bonheur universel, d'égalité, de justice, tu te rends compte. Voilà, donc c'était pour illustrer ce roman qui, après nous, vivrait Hervé.
Bah oui, c'est encore une illustration particulièrement subtilement trouvée et par ailleurs qui fait cet extrait que tu viens de citer fait complètement écho à cette mélancolie révolutionnaire qui définit si bien Hervé Lecor et qui donne le titre à l'ouvrage que qu'Yvan Robin chez Playlist Society lui consacre, oui.
Voilà, donc un petit livre. Alors, aux éditions Playlist Society, un mot sur les éditions Playlist Society, Hervé.
Ah, ben la Playlist Society, leur slogan, c'est la culture en version pop. C'est une maison d'édition avec des petits livres très, très élégants, mais surtout avec une analyse très pertinente, mais qui considère que, à l'image de son fondateur, Benjamin Fogel, qui considère que il n'y a pas, enfin voilà, peuvent être importants aussi bien des films, de la musique, des séries, des livres, des romans. Ça n'est pas, justement, il n'y a pas, la hiérarchie ne se fait pas suivant les styles de choses, mais c'est montrer comment, à travers une culture, tout ce qui fonde une culture populaire, il y a des histoires qu'on raconte et une analyse de société, une critique sociale qu'on peut faire et voilà, qui permet une mise en regard des conditions politiques, sociales, historiques, culturelles, et donc on peut y parler aussi bien de la série The Leftovers que de Buffy contre les vampires, ou bien du groupe pop Oasis, ou bien du chanteur et musicien Vic Chestnut, enfin bon...
De Hervé Lecor.
Et donc de Hervé Lecor, ouais. Ça c'est une collection, et alors on peut que se réjouir de ça, parce que là aussi Playlist Society renoue avec quelque chose qui a existé mais qui était complètement disparu et qui est très difficile à faire dans une maison d'édition. Enfin, je ne conseille pas de le proposer à une grosse maison d'édition, je pense que ça ne sera pas accepté, mais il y a un an, ça avait commencé avec un livre d'entretien de la journaliste Élise Lépine avec DOA, qui s'appelait DOA à rétablir le chaos, qui était absolument passionnant, qu'on soit ou pas lecteur de DOA d'ailleurs. Et puis ça continue aujourd'hui avec Hervé Lecor, Mélancolie révolutionnaire, signé Yvan Robin, qui lui-même est un écrivain et qui est bordelais.
Né aussi à Bordeaux, enfin où il vit à Bordeaux. Comme Hervé Lecor.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est vraiment passionnant parce que, en plus, Hervé Lecor, que toi, moi et d'autres avons beaucoup lu, je pense, presque tout lu, je crois aussi. En même temps, Hervé Lecor est quelqu'un de très de pudique. Et ce n'est pas quelqu'un qui se livre beaucoup. Le principe est que, comme toujours dans cette collection, FASB, il y a d'abord quelques pages d'introduction à l'œuvre tout à fait pertinentes, et après il y a un entretien d'une centaine de pages, ce qui laisse le temps de bien poser les choses, de permettre du souffle, de permettre de la respiration à l'écrivain interviewé et de livrer des choses sur sa vie, son œuvre.
Mais tout à fait, donc une première partie assez courte, une introduction, ouais, qui est en quelque sorte une bio, hein, pour commencer,
oui.
Avec donc une enfance bordelaise, un milieu familial ouvrier, hein, pour Hervé Lecor, qui deviendra professeur de lettres, une carrière d'enseignant qu'il mènera jusqu'à sa retraite. Et puis, bien sûr, ensuite, ses écrits, et avec le premier roman, donc publié en 1990, À la série noire, c'est La douleur des morts. Une étape importante, c'est 2004, avec Rivage noir, le roman sans doute qui va le révéler, l'homme aux lèvres de Saphir, et une plongée dans la commune, une période de l'histoire très très chère et très importante pour Hervé Lecor, qui est un écrivain, on se rend compte, qui prend du temps pour écrire, bon, à la fois parce qu'il travaille à côté, mais c'est aussi, je pense, un auteur qui prend soin de son écriture. dur, hein, des romans tous les 2-3 ans en moyenne, pas plus. En fin de compte, il en a écrit 14 en 34 ans, hein, si mes comptes sont bons. Et je trouve que Yvan Robin a une bonne formule pour résumer le travail de cet auteur. Il écrit dans son introduction « Le corps devient un auteur majeur, capable de concilier la brutalité littéraire de James Ellroy avec le naturalisme d'Émile Zola. » Bon.
Oui.
J'ai envie de dire, tout est dit.
Je pense que ce parallèle est très juste, effectivement.
Mais tout est dit et tout n'est pas dit, parce que bon, ensuite l'entretien est très intéressant, parce que il est en fin de compte il est jalonné par l'œuvre, les différents romans de Hervé Le Cor. Alors tu l'as dit, quelqu'un de pudique, mais quelqu'un qui ne doit pas être facile à faire parler, hein. Je cite là une question et Yvan Robin est très très honnête, hein, puisqu'il a il a reproduit toutes les questions. Alors j'en cite une, hein, sans parler forcément des meurtres, sévit dans chacun de vos romans, interroge donc Yvan Robin, une violence au long cours au niveau des relations entre les personnages, des gifles, des coups de poing, de pied. Et la réponse cingle de Hervé Le Cor, des coups de pied, où ça, des coups de pied? Je ne comprends pas votre question, elle relève d'une lecture biaisée de mes romans, il me semble. Donc,
c'est ça que j'ai trouvé aussi très bien, c'est que l'entretien n'est pas du tout hagiographique. Enfin, on ne sert pas, pour le dire brutalement, on ne sert pas la soupe à l'écrivain. C'est-à-dire que il y a des moments où Hervé Le Cor s'agace de certaines questions. Il y a un côté totalement vivant et d'une grande authenticité de cet entretien. Je trouve ça, c'est aussi pour ça que je pense que le long cours comme ça d'une longue interview permet ce genre de choses. Ça donne à voir parce qu'évidemment Hervé Le Cor va parler avec une certaine aisance de ses lectures. Il est avant tout un grand lecteur. Il sait, souvent en le lisant, on a envie de lire des livres qu'on n'a pas lus.
Tout à fait.
Qu'il parle de la route de Cormac McCarthy un peu moins connue mais excellente Laura Kosciuszko, l'autrice de Suspicious River et d'autres choses, qui est une grande référence pour lui. Et Hervé Le Cor est quelqu'un qui aime parler de ses lectures, qui aime et qui dit combien c'est important, de même que pour le roman noir, la lecture de Manchette, par exemple, a été très importante. Mais en même temps, il peut être bavard, plus bavard pour défendre ses choix, ses idées, mais ses choix littéraires, autant, effectivement, il y a des... Mais bon, on apprendra même, je crois, que dans sa jeunesse, il a été batteur d'un groupe de rock à Bordeaux. Alors,
c'est vrai. Il y a un bel échange aussi autour de la complaisance, hein, par rapport à la violence que peuvent dégager certains livres. Alors, Yvan Robin lui pose la question, vous a-t-on déjà reproché cette complaisance? À part vous, non. répond Hervé Le Cor. On me dit surtout que mes livres sont noirs, ce qui n'est pas la même chose. Et la question est aussi posée par rapport à Qui après nous vivrait, qui sort dans une collection de Rivage Noir, une collection de romans noirs, alors que bon, on peut considérer que c'est de la science-fiction ou de la dystopie. Mais bon, Hervé Le Cor explique, bon, c'est aussi une histoire avec son éditeur, et qu'en fin de compte, c'est aussi de la littérature noire. Donc vraiment, un livre à conseiller pour aller au-delà, bien sûr, de la lecture des romans de Hervé Le Cor. Alors, tu l'as dit, hein, moi c'est pareil, j'ai noté des références de livres, et j'ai noté aussi donc la référence au livre de Daniel Ben Saïd, qui est vraiment un livre très important pour Hervé Le Cor. Le Paris mélancolique, Métamorphose de la politique, Politique des métamorphoses, hein, qui est publié en 1997. Et c'est là que apparaît cette notion de mélancolie révolutionnaire. Hervé.
Ben oui, parce qu'il y a eu de grandes espérances, évidemment. Hervé Le Cor est d'une génération qui s'est engagé, qui a connu cela, voilà. Et il y a eu aussi évidemment on va pas s'attarder là-dessus, de grandes désillusions également. Mais il n'y a pas de reniement, il n'y a pas de renoncement. Il y a toujours l'idée de la mélancolie est là, mais il y a le pari, un pari quand même d'un futur possible. Et il y a une citation d'Hervé Lecor que j'aime beaucoup. Je crois qu'elle est dans cet entretien où il dit : je cherche juste à montrer que les personnages de romans ont cette épaisseur humaine. Ils ont des doutes, des chagrins, des absences, ce qui ne les empêche pas de vivre.
Alors donc, Hervé Lecor, Mélancolie révolutionnaire de Yvan Robin, entretien avec Yvan Robin, aux éditions Playlist Société. Et tu dis, toi, Hervé ?
Moi, je dis Society.
Mais... Society, donc, et c'est toi qui dis bien. Hein. Moi, je dis ça n'importe comment, vu ici.
Mais non.
Et puis, donc, surtout, qui après nous vivrait ? Enfin, surtout, non. Tout est à lire, hein, de Hervé Lecor, mais son dernier roman, donc, Qui après nous vivrait aux éditions Rivage Noir.
Je crois que la simultanéité de la sortie de ces deux livres est une très bonne idée. Je pense que le livre d'entretien sort à un moment particulièrement bien choisi. Je ne parle pas du tout en termes commerciaux, hein, en termes de compréhension de l'œuvre d'Hervé Lecor, c'est vraiment très bien.
Et notamment de ce dernier roman. Juste très rapidement, un mot sur le dernier numéro de la revue 813, Hervé, le numéro 148, avec un dossier réédité, c'est bien joué. Donc, tout revient pas sur ce dossier, puisque nous en avons déjà parlé dans Variations.
Je crois que ça fait un peu écho à une émission que nous avons eue.
Toi, tu voulais retenir quand même, je pense, un article.
Je voulais quand même dire que dans ce dossier, sans parler du retour sur les différents entretiens avec le traducteur de Friedrich Dürrenmatt, Schegelmeister, ou bien l'entretien avec Stéphanie Delestré qui dirige la série Noire et François Guérif qui a fondé Rivage Noir, et puis d'autres choses sur les retraductions. Il y a une double page consacrée à Jean-François Villard, notre Lumière Noire, qui est quelqu'un d'un petit peu qui a été très important et qui est un peu oublié. Ça fait raccord à notre début d'émission, puisque de Jean-François Villard, il était beaucoup question dans le polar français d'Elfriede Müller et Alexander Ruoff.
Et Hervé, on peut aussi signaler que dans un des romans de Hervé Lecor, un des personnages s'appelle Villard.
Absolument. Et si on va encore plus loin, on pourra dire que Hervé Lecor a fait une très lumineuse préface à la réédition de État d'urgence toute récente. Tout ça a du lien, je crois.
Oui, voilà.
Ce sont des correspondances qui se comprennent très bien. Non, je voulais simplement rajouter que dans ce numéro, il y avait aussi un grand entretien avec l'écrivain Morgan Oudick à l'occasion de la sortie de son nouveau roman, Personne ne meurt à Longyearbyen, et qui est un thriller de grande qualité, politique aussi, et qui nous emmène dans des territoires très peu connus de l'Arctique. Et puis il y a un hommage de Sébastien Gendron à Kim Dorsey.
Et puis une nouvelle aussi, c'est un peu une nouveauté là, dans 813, puis un moment qui propose aussi une nouvelle, et pour ce numéro c'est une nouvelle, une bonne promo de Pascal Dessin.
De notre ami Pascal Dessin, absolument. Oui. Et puis plein de bonnes choses. Une chronique de Jérôme Leroy sur Il suffirait de presque rien, qui est un peu ce genre de rubrique qui fait un peu tomber les barrières, puisque c'est des livres qui sont du roman noir, mais qui auraient pu paraître dans des collections dédiées à cela, et qui, ça n'est pas le cas. Mais voilà, c'est aussi pour prouver que la littérature noire n'a pas de frontières. Voilà.
Eh bien, c'était Variation en noir, dans Variation, une émission mensuelle de Radio PFM, réalisée en collaboration avec Puissant 13, l'association des amis des littératures policières, en particulier avec Hervé Delouche. Hervé, au revoir.
Eh bien, au revoir, Guy, et puis bonne lecture, et à bientôt pour la suite. Allez.
Alors, voilà, au revoir.